L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Allez, c'est parti pour cette chronique numéro 3. Bonjour à toutes et à tous. L'onde du bois revient enfin dans vos feuilles et j'espère que vous ne les avez pas trop froides. Je suis vraiment heureux de revenir parmi vous. Je sors un peu d'une hibernation, une sortie un peu précoce. Lors de la chronique précédente, j'ai présenté l'essentiel concernant les rôles de la forêt et donc comment le forestier les met en fonctionnement à travers justement les quatre grandes fonctions de la forêt. On avait parlé la dernière fois, et c'était au mois de novembre, donc je ne sais pas si vous vous en souvenez bien, de la fonction naturelle, de la fonction de protection, de production et culturelle de la forêt. Et on avait vu ensemble que ces curseurs doivent être réglés dans le temps et nécessairement inscrits dans la gestion de la moindre petite parcelle forestière. Oui, mais la forêt évolue lentement. En tout cas, le passage d'un être humain est souvent plus bref que celui d'une forêt. Et dans ce contexte, comment assurer une gestion pérenne qui traverse le temps et continue à être respectée par les générations futures ? Eh bien, grâce au développement de la réflexion du propriétaire forestier, aidé dans la plupart des cas par un gestionnaire forestier, le relais intergénérationnel est assuré en rédigeant un document de gestion durable des forêts. Ce document permettra d'étudier votre forêt et d'analyser son état, sa composition à un instant T, ce qui permet d'en apprendre déjà beaucoup sur la forêt. Puis, une fois que le propriétaire connaît mieux sa forêt, cela lui permet de concevoir l'aménagement du massif forestier selon les fonctions par parcelle et surtout de programmer, jalonner dans le temps, à plus ou moins longue échéance, les actions multifonctionnelles à prévoir ou à éviter. Alors, nous allons aujourd'hui donc développer ensemble les documents de gestion en forêt. Alors, pour cela, je vais devoir parler un petit peu avec des sigles qui, pour la plupart des forestiers, sont des acronymes fréquents, et je m'excuse par avance un peu du caractère des fois un peu barbare de ces sigles. Mais l'idée, c'est de vous les apporter, voilà, en toute modestie, pour que vous les compreniez mieux. Alors, avant de vous parler de comment et pourquoi rédiger ces documents, il est important d'évoquer quelques rappels sur la propriété forestière en France. À qui appartient la forêt en France, en fait ? Eh bien, les trois quarts de la forêt française métropolitaine, 12,6 millions d'hectares, sont des propriétés privées. En gros, c'est le gestionnaire forestier qui gère lui-même sa forêt. Elle est fortement morcelée, cette propriété privée. On le voit ici, par exemple, en Corrèze, on a 80% des propriétaires forestiers privés qui ont moins de 4 hectares. Et la forêt publique, elle est gérée par l'ONF, donc représente un quart des forêts métropolitaines. Elle se répartit entre les forêts domaniales, qui appartiennent à l'État, donc c'est 1,5 million d'hectares, et les autres forêts publiques, 2,7 millions d'hectares. Alors, une fois qu'on sait à qui appartient la forêt, on va se pencher sur la question de comment on va rédiger des documents de gestion durable en forêt, et notamment dans la forêt publique. Eh bien, en forêt publique, gérée par l'ONF, ces forêts relèvent automatiquement du régime forestier et sont donc automatiquement équipé d'un cahier d'aménagement qui est renouvelé tous les 20 ans et archivé sur toute la durée de vie du massif forestier. On parle de sommier de la forêt, c'est la mémoire vivante de la forêt qui est archivée dans les archives de chaque unité territoriale. Ils existent toujours en archive depuis l'administration forestière des eaux et forêts réformée par Colbert, donc ministre général, contrôleur général des finances et ministre de Louis XIV. Sur la réalisation de ces cahiers d'aménagement, les techniciens forestiers ONF élaborent un parcellaire qui découpe la forêt en parcelles, y réalise des inventaires et classe les peuplements par type de régime, traitement, composition, classe d'âge, etc. C'est ce qu'on appelle la typologie des peuplements forestiers. Des cartes, autrefois réalisées à la main sur fond cadastral, sont ensuite réalisées par ordinateur sur système informatique géographique afin de faire apparaître la mosaïque des peuplements forestiers. Les infrastructures, places de dépôt, pistes, routes, etc. sur le massif forestier et d'en faire découler par type de peuplement et selon leurs particularités topographiques ou écologiques Donc le forestier est quand même conscient de la nécessité de préserver les zones naturelles, hein, les zones de protection spéciale par exemple, comme les zones naturelles à intérêt écologique, floristique et faunistique, ou les zones à intérêt de conservation ornithologique. Donc voilà, donc ces particularités topographiques ou écologiques découlent des itinéraires sylvicoles qui présentent un calendrier d'action. Donc ça, c'était pour la forêt publique. Hein, donc on parle bien de cahier d'aménagement qui doit contenir tout ça. Et pour la propriété privée, eh bien, en fait, le propriétaire, lui, est tenu de respecter les schémas régionaux de gestion sylvicole qui exposent les principales règles de gestion des forêts privées. Hein, ça, c'est par rapport à la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001 qui donc prend en compte les spécificités humaines, géographiques, naturelles de chaque région. Donc selon la surface de la propriété forestière, le propriétaire, donc pour un massif forestier de moins de 25 hectares, doit soit se munir d'un code de bonne pratique sylvicole, qui est un moyen simple de gérer des petites surfaces, ou un règlement type de gestion qui s'adresse plutôt au propriétaire ne rentrant pas dans le cadre d'une obligation de plan simple de gestion. Alors, ce RTG... vous gérez vos bois grâce à un organisme de gestion, comme une coopérative, ou un gestionnaire forestier indépendant, ou un expert forestier. Et pour les massifs de 10 hectares, eh bien, c'est un plan simple de gestion, ou donc obligatoire pour un seul tenant, ou donc volontaire pour des propriétés d'au moins 10 hectares. Enfin, pour des massifs de plus de 25 hectares, un plan simple de gestion est obligatoire. Donc là, c'est vraiment conseillé de réaliser, et c'est obligatoire de réaliser un plan simple de gestion. Dans tous les cas, donc, le programme de coupe et travaux se fera de 10 à 20 ans, précisant les itinéraires techniques et sylvicoles correspondant à la réalisation d'objectifs que le propriétaire a lui-même fixés. Le propriétaire pourra rédiger lui-même son PSG, mais il apparaît à l'expérience que le contact, la discussion et la rédaction du document avec un gestionnaire professionnel enrichira considérablement l'approche gestion patrimoniale et la valorisation écologique, sociale et économique de la propriété. Une fois rédigé, le PSG sera transmis au CNPF pour être validé. Le PSG devra être agréé par le CNPF. Voilà, nous l'avons vu, les documents de gestion durable constituent une belle garantie auprès des propriétaires forestiers pour éviter des erreurs de gestion, sous réserve de leur agrément par les services de l'État et de la mise en œuvre des programmes de coupe et travaux. Si vous êtes propriétaire de forêt, n'hésitez pas à vous tourner vers le CNPF, donc le Centre National de la Propriété Forestière. Je travaille régulièrement avec eux et c'est vraiment leur métier d'aider et de conseiller les particuliers dans la gestion forestière. Quant à moi, eh bien, je n'espère pas vous avoir trop perdu dans la forêt des sigles. À la prochaine onde du bois, je vous propose donc de nous écarter de ce chemin ultra-balisé, le temps d'une histoire qui en contiendra peut-être même plusieurs, celle de la forêt du plateau de Mille Vaches, à travers des femmes et des hommes dont chaque habitant et cultivateur d'aujourd'hui hérite. Je vous dis à très bientôt, chers amis des bois, et en attendant d'emprunter de nouveaux layons sonores avec vous, je vous souhaite une belle journée en compagnie toujours de près ou de loin des arbres et en souhaitant également que la forêt reste une forêt.